Ils se mirent donc en route côte à côte, chacun tenant un enfant par la main. Cependant, il fallut bientôt presser le pas, car l'heure s'avançait. « Si nous les portions, » suggéra Luc, pris de compassion pour les petits trotteurs essoufflés. « Je n'osais vous le proposer, » répondit Dalphon. Les deux marmots, charmés de l'aventure, furent donc promus à un poste très élevé d'où ils dominaient le paysage, tandis que leur monture prenait au pas de gymnastique la direction de la ville. Comme il fallait ménager son souffle, les deux jeunes gens n'échangèrent pas un mot avant d'être parvenus aux premières maisons. « C'est ici que je loge, » dit enfin Dalphon Renaud, en s'arrêtant devant une grande bâtisse inachevée et déjà décrépite. Les murs n'avaient reçu qu'une couche de plâtre grossier qui s'écaillait et tombait par plaques. On arrivait à la porte par un perron provisoire en planche, en attendant les marches de granit promises par les devis. Les fenêtres n'avaient pas de volets. La façade portait un air de pauvreté morne. « Ça ne doit pas être cher de loger dans cette bonbonnière, » pensa Luc. « J'y prendrai bien mes quartiers. Puisque mon chef y demeure, ça ne peut manquer d'être très respectable. » Les deux enfants dégringolèrent de leur perchoir et prirent la main de Dalphon pour le remercier, avec une nuance de respect qui étonna Luc. Quand ils arrivèrent au comptoir, toutes les horloges de la ville frappaient 7 heures. Dalphon passa le premier, descendit un escalier situé au fond du corridor et ouvrit la porte d'une longue construction basse, tout en fenêtres comme une galerie, qui longeait le jardin d'un côté. Un jeune garçon en blouse s'y trouvait déjà, maniant le plumeau d'un air affairé. « Ernest, un nouvel employé, Monsieur Luc Offrand, » dit son chef en passant devant lui. « Très bien, Monsieur Renaud, on tâchera de le mettre au courant, » répondit le subordonné minuscule d'un air protecteur. Luc regardait avec étonnement autour de lui. « Jamais je ne m'y retrouverai, » pensait-il. Une foule de casiers montant du plancher au plafond et couvrant toute l'étendue des murailles était remplie d'innombrables paquets numérotés, ficelés et étiquetés. Des tours, des burins fixes, des machines de différents genres se dressaient au fond de la pièce. Au plafond pendaient des torches de fil de fer, de cuivre et d'acier, des quinquets, des feutres à filtrer pointus comme des bonnets de magiciens, des étaux aux fortes mâchoires. Une grande vitrine était remplie d'outils délicats. À côté s'entassaient les lourdes barres du métal brut, le nickel, le laiton en planche, les plaques d'acier et les énormes cisailles toutes prêtes à y mordre. Deux autres garçons d'une quinzaine d'années étant arrivés sur ces entrefaites, M. Dalphon donna silencieusement à chacun sa besogne. Luc seul resta inoccupé quelque temps et en profita pour faire connaissance avec son nouveau domaine. La multitude des tiroirs et des casiers l'alarma tout d'abord. Il remarqua avec surprise l'aisance de son chef qu'il, malgré sa myopie ou à cause de cela même, ne semblait jamais chercher, mais trouver du premier coup l'objet dont il avait besoin, comme le pianiste qui frappe une touche sans la regarder, ou le compositeur d'imprimerie dont la main sûre ne brouille jamais les différents caractères. On préparait un envoi considérable, chacun se hâtait. Les petits paquets gris ou jaunes, portant chacun la désignation de leur contenu, s'entassaient sur le comptoir. Quand tous les articles de la commission furent rassemblés, on les emporta dans un arrière-magasin où se faisait l'emballage. Luc se demanda par quelle magie le chef avait discipliné ses 3 jeunes aides, au point d'en faire vraiment des instruments de précision. Attentifs à ses rares paroles, à ses moindres gestes, ils s'empressaient silencieusement, sans se bousculer, et semblaient deviner quelle partie de la besogne incombait à chacun d'eux. « J'espère que M. Dalphon me stylera aussi, » se dit Luc en regardant son supérieur avec un respect tout nouveau. « Ce matin, j'ai pu voir qu'il est homme de cœur. Ici, on devine qu'il est un homme de tête. » Cet employé, gauche et silencieux, avait sans contredit un don d'autorité. Dans sa figure, où Luc n'avait su voir le jour précédent qu'un teint blafard, des yeux ternes et une chevelure orange, il découvrait maintenant une expression de calme énergie, de résolution un peu triste, mais persévérante et paisible, qui donnait un charme secret à ce visage ingrat. Les mains dans ses poches, Luc se promenait le long des tiroirs, cherchant à se familiariser avec leurs étiquettes, dont les inscriptions étaient pour lui de l'hébreu. noisettes arrivées, cuivreaux à lordons, cuivreaux aux tiges, cœurs en trénoir, limes à losanges, limes queue de rat, tout cela suivi de signes hiéroglyphiques indiquant la dimension, la qualité, le prix de douzaine ou de grosse. De temps en temps, la voix de M. Dalphon Renaud, qui vérifiait la commission, parvenait aux oreilles de Luc et augmentait sa conviction qu'il était au seuil d'une science très mystérieuse et très compliquée. 100 grosses d'aiguilles d'acier, dessins variés, qualité L, 14 à 20 lignes. Et carissoirs à pivot, qualité G. Ernest, 2 paquets de cadrans à zone ont été mêlés aux chiffres turcs dans le dernier envoi. C'est toi qui as fait cela, mon garçon. L'inculpé rougit jusqu'aux oreilles et Luc le vit, l'instant d'après, se glisser le long du comptoir, ouvrir le tiroir au cadran et s'assurer soigneusement que tout y était en ordre. Voici de la besogne pour vous, dit M. Dalphon en venant à Luc. Il tenait une grande boîte à compartiments dont chaque case était pleine de pierres encore brutes, rubis, grenats, saphirs, chrysolites aux reflets verdâtres, classés par espèces, dimensions et qualités. Faites-moi des paquets de 100, dit M. Dalphon en plaçant la boîte sur un établi, en pleine lumière, dans une embrasure de fenêtre. Il montra à Luc à compter de l'œil, 5 par 5, ces pierres souvent microscopiques, à les glisser adroitement dans de petits papiers déjà tout prêts et étiquetés. Luc eut de beaux coups, préféré qu'on lui mît aux mains la plus lourde bêche, le plus grossier balai d'écurie. Il regarda ses doigts de paysan et trouva qu'il n'avait jamais eu l'air aussi pâteau. Cependant, il se mit à sa tâche de l'air d'un géant soumis qui confectionnerait des ailes de mouche, s'y prit fort maladroitement d'abord, un peu mieux ensuite, et se piqua d'honneur. M. Dalphon n'eut garde de le surveiller de trop près, il le laissa faire seul ses premières expériences. Un rubis de la grosseur d'une tête d'épingle ayant sauté tout à coup, Luc fit un brusque mouvement pour le retenir, poussa la feuille de papier qui lui servait de sous-main, dispersa aux 4 vents la centaine qu'il venait de compter laborieusement et se prit la tête à 2 mains en face de ce naufrage. Fort heureusement, les pierres n'avaient pas roulé bien loin et il les rassembla aisément. Seul, le rubis, cause de tout le mal, était tombé sur le plancher. Luc s'agenouilla pour le chercher, s'allongea sous l'établi, fit partir 3 ou 4 allumettes pour éclairer les coins sombres, se donna autant de mal que s'il se fût agi des fameux rubis de l'empereur de Chine. Désolé de sa mésaventure, il alla s'en confesser à son chef. « N'y perdez pas votre temps, dit celui-ci, cette pierre ne vaut pas 3 centimes. » Luc ouvrit de grands yeux, car pour lui, un rubis, même de dimensions infinitésimales, était un objet merveilleux, venu en droite ligne du pays des 1001 nuits et digne des plus grands égards. Cet incident fut la première de ses désillusions. Dès lors, il traita les pierres fines en simples fournitures d'horlogerie et sa maladresse en diminua. Depuis 2 heures déjà, il était penché sur son établi quand la porte de l'entrepôt s'ouvrit et on appela « Monsieur Luc Offrand !» Il se leva aussitôt, mais ses yeux s'étaient attachés sur leur besogne avec une telle intensité qu'ils nagèrent dans le brouillard en s'en détournant. « Qu'est-ce qu'il y a ? » fit-il en se les frottant avec énergie. « Quelqu'un vous demande dans la rue. » Il sortit et revint 1 minute après. « Monsieur, dit-il en s'approchant de Dalphon, me voici bien embarrassé. Un de nos voisins amène ma malle et je ne sais qu'en faire, n'ayant pas encore de domicile. »« Apportez-la ici, dit M. Dalphon, sans cesser de feuilleter le registre, dont son nez frôlait presque les pages. « Ernest, va !» Ernest comprit l'ordre qu'on lui donnait de cette façon laconique et prêta main forte à Luc pour remiser son colis dans un coin de l'entrepôt. « Où dînerez-vous ? » demanda l'expéditionnaire quand midi sonna. Il avait échangé sa blouse de travail contre un modeste paletot et se préparait à partir. Sa voix avait une hésitation nerveuse quand elle quittait le ton officiel. On voyait que Dalphon Renaud faisait violence à sa timidité pour adresser cette simple question à Luc. « Je n'en sais rien, répondit celui-ci. Je trouverai bien un restaurant où je prendrai un morceau sur le pouce. » « Si vous vous contentez de ma pension, venez avec moi. Vous n'y aurez pas fine cuisine, mais c'est propre et pas cher, et dans la maison où je loge. » Mille remerciements, fit Luc tout joyeux. Il n'y aurait pas de chambre à louer, par hasard, dans votre immeuble. C'est un quartier qui me conviendrait. Nous nous informerons. Ce nous fit plaisir à Luc. C'était comme une promesse de bonne camaraderie et de bons conseils. La pension bourgeoise où M. Renaud introduisit son compagnon n'avait aucune prétention à l'élégance, ni même à la correction du service. Le couvert était assez délabré, une très grande variété régnait parmi les assiettes. De fait, il semblait que chaque convive reconnût la sienne à quelques marques distinctives dans les fentes ou les ébréchures. Les verres étaient épais, les cuillers d'étain, mais la nappe était propre et une vapeur d'un fumet exquis montait de la soupière. Un couvert fut bientôt mis pour Luc au bas de la table. M. Dalphon, en sa qualité de doyen, tenait le haut bout. Une vingtaine de jeunes gens arrivèrent à la file, c'étaient des ouvriers, des commis à petits appointements. Quelques-uns avaient le verbe haut et se mirent à parler politique aussitôt après le potage. On était en pleine période d'élection. Les journaux s'invectivaient avec zèle. On rééditait les vieux clichés et les vieilles injures, augmentées de quelques inventions récentes. On se sentait obligé, vu la gravité des temps, à se détester un peu plus qu'à l'ordinaire. Bref, un noble patriotisme brûlait dans tous les cœurs. Bientôt, la discussion s'échauffa et devint générale. Les personnalités s'en mêlèrent. Alors Dalphon Renaud, de son air grave, essaya d'intervenir. « Mangez dans votre assiette !» fit grossièrement un des plus exaspérés. « Avec un museau aussi laid que le vôtre, on se cache !» Une légère rougeur monta aux joues pâles de Dalphon, mais il dédaigna de répondre à cette injure personnelle. Luc avait bondi sur ses pieds. « N'insultez pas un homme qui en vaut 50 comme vous, gringalet !» s'écria-t-il d'une voix éclatante. En même temps, il quittait sa place et saisissait l'insolent par les deux épaules. Celui-ci essaya de se retourner, mais une force supérieure à la sienne le cloua sur sa chaise. « Demandez-lui pardon, je ne dis que ça !» tonna Luc. « Autrement, je vous secoue à vous faire branler toutes les dents !» Et déjà, pour l'encourager, il lui donnait un avant-goût de l'opération. Madame Veuve Nicolet était accourue pour veiller à la sûreté de sa vaisselle. Mais, voyant que les autres convives restaient pacifiquement neutres, elle mit ses deux poings sur les hanches et donna essor à ses sentiments. « C'est bien fait, dit-elle, secouez-le comme un pommier. Je ne veux pas qu'on bafoue notre major de table, le plus ancien et le plus régulier de mes pensionnaires. Secouez, jeune homme, secouez! Si on entend des écus sonner dans ses poches, on saura qu'il est en mesure de payer son mois de pension et de décamper au plus vite. « Assez !» dit Dalphon en se levant. « Luc Offrant, laissez-moi régler mes affaires moi-même. Lâchez cet homme !»« Un homme ?» fit Luc dédaigneusement. « Une mazette, un article de papier mâché. Voulez-vous qu'il vous demande pardon ?»« De quoi ? De m'avoir dit que je suis laid ? C'est une vérité aussi vieille que moi. » Luc semblait indécis. Si l'offensé abandonnait la querelle, il était, lui, tout disposé à la reprendre à son compte. « Lâchez-le !» répéta Dalphon impérieusement cette fois. « C'est bon, » dit Luc à regret. L'étreinte de ses mains se relâcha et son prisonnier, qui s'était vainement tordu et démené durant toute la contestation, se sentit libre enfin à son grand soulagement. Il se leva en affectant un air dégagé, jeta sur la nappe le prix de son dernier mois de pension et sortit en jurant de ne plus mettre le pied dans cette baraque. Les deux camps restèrent encore quelques minutes en présence, se jetant des regards courroucés, mais les hostilités ne recommencèrent pas. Luc était un peu honteux de lui-même. « Je me suis conduit en vrai échappé des bois, » pensait-il. « Beau début, ma foi, M. Dalphon me prendra pour un bataillard. »« Voulez-vous, » lui dit celui-ci, comme ils allaient quitter la chambre à manger, « que nous vous cherchions un logement ?» « J'en serai bien aise, merci. Il me tarde d'être casé. » Madame Nicolet, appelée en consultation, se souvint qu'au troisième, il y avait une chambre à louer à un monsieur seul, d'habitude paisible. À ce mot, elle regarda Luc, comme si elle doutait fortement qu'il pût remplir les conditions requises. Il rougit, mais M. Dalphon dit tranquillement « Je le recommanderai moi-même. » On monta chez la locataire du troisième. C'était la mère des deux bambins chétifs que M. Dalphon avait envoyés au vert. Elle n'eût pas demandé mieux que d'obliger un ami de son charitable voisin, mais sa chambre était louée de la veille à un horloger qui avait stipulé 10 francs d'art. « Je pourrais lui donner congé au bout d'un mois, dit-elle, si monsieur trouvait un autre logis en attendant. »« Nous verrons, dit Dalphon Renaud. Descendons chez moi, monsieur Offrand, nous y causerons plus à l'aise. » La chambre de Dalphon était au second étage et s'ouvrait directement sur le palier. Des fenêtres, on dominait un grand terrain vague, moitié chantier et moitié friche, qui, bientôt, se couvrirait de nouvelles constructions. En attendant, l'air et la lumière y circulaient librement, de grosses touffes d'herbes y poussaient, rafraîchissant les yeux brûlés par la blancheur des moellons et des rues poudreuses. La chambre était vaste et n'avait rien de la physionomie banale d'un garni. Des rayons chargés de livres, une petite table à écrire fort simple mais commode, quelques beaux fusains ornant les murailles, un gros bouquet de lilas dans une jarre de nion, un sofa confortable et une grande horloge montée en palissandre semblaient dénoter un homme qui aime son chez-soi et se plaît à l'embellir. Luc, craignant de paraître indiscret, jeta à peine un coup d'œil autour de lui, bien qu'il brûlât d'examiner les dessins suspendus aux parois. Nous avons encore une demi-heure avant de retourner au travail, dit M. Dalphon en invitant son hôte à s'asseoir. Profitons-en pour arranger un peu vos petites affaires. J'espère que vous ne me trouvez pas indiscret, ajouta-t-il avec une certaine hésitation et un mouvement nerveux des mains qu'il avait toujours quand sa timidité lui revenait. Vous êtes trop bon de vous occuper de moi, s'écria Luc. Tenez, je vais vous dire ma position et vous m'aiderez à établir mon budget, voulez-vous ? M. Dalphon sourit. Les manières ouvertes et liantes de son compagnon avaient déjà vaincu la réserve derrière laquelle se retranchait sa sauvagerie. Pendant une demi-heure, donc, la conférence examina, soupesa, étira les 60 francs de Luc pour les décider à joindre les deux bouts du mois. « Ce sera difficile, dit M. Dalphon, mais pour les premières semaines, j'ai une proposition à vous faire. » Il s'arrêta, regardant Luc avec une certaine anxiété. « Je n'ai pas le caractère fort agréable, poursuivit-il, n'étant pas gai de ma nature. Peut-être ma société vous ennuierait-elle. Mais si, en attendant que la chambre du troisième soit vacante, vous voulez partager la mienne, c'est de tout mon cœur que je vous l'offre. » Luc tardait à répondre. Dalphon reprit « Pour peu qu'un autre arrangement vous convienne mieux, ne vous gênez pas. Vous ne devez consulter que votre préférence. En acceptant mon offre, vous me ferez plaisir, mais vous ne me blesserez pas en la refusant. » « Merci, dit Luc avec chaleur. Si j'hésitais, c'est que je ne me sentais pas tout à fait digne d'entrer dans votre intimité. Vous êtes mon supérieur en tout. » Dalphon sourit de nouveau, mais un peu tristement cette fois. « Laissons les comparaisons, dit-il. C'est donc arrangé. Nous apporterons votre mal ici ce soir et vous vous installerez. » « Comme ma mère va être heureuse de toutes mes bonnes chances !» s'écria Luc en reprenant avec son compagnon la route de l'atelier. Et il se mit à parler de son chez-lui, de ses parents, de Claire, comme s'il eût connu M. Dalphon toute sa vie. Il avait enfin un ami. Il le devinait sûr, discret, plus sage et meilleur que lui. Son affection de fraîche date n'était guère encore qu'une flambée de jeune enthousiasme, mais elle contenait l'élément essentiel des amitiés durables, l'estime. Tout l'après-midi, il s'appliqua à sa fastidieuse besogne de manière à gagner l'approbation de son chef. M. Moller fit une apparition à l'entrepôt. « Bien, bien, dit-il en voyant la dextérité avec laquelle Luc maniait déjà les pierres. Vous ne manquez pas d'habileté. Votre père vous aura au moins transmis cela, à défaut d'autres patrimoines. » Le fait de sa pauvreté était incontestable, mais Luc trouvait superflu qu'on la lui rappelât. « Monsieur Moller n'a pas la main rude, pensa-t-il. Seulement, il frotte toujours à rebrousse-poil. » « Vous êtes satisfait de la conduite de vos subordonnés ?» poursuivit le patron en se tournant vers Dalphon Renaud. « N'oubliez pas de pousser ferme ce nouveau venu. S'il marche droit, s'il rompt complètement avec son passé, il trouvera chez moi un pain honorable. » « Monsieur, » dit Luc, dont les oreilles commençaient à s'échauffer, « j'ai toujours mangé un pain honorable, et quant à rompre avec mon passé, je ne sais pas ce que vous entendez par là. » « C'est bien simple, » interrompit l'expéditionnaire de sa voix brève. « Rompre avec votre passé, c'est changer d'occupation, quitter la campagne pour venir en ville. » « Vous auriez pu vous en remettre à moi, monsieur Renaud, pour expliquer le sens de mes paroles, » gronda monsieur Moller en tordant sa moustache. « Notre nouveau subordonné me paraît avoir un fichu caractère. » Au moment de sortir, il revint et s'adressant à Dalphon, « Si vous pouvez vous passer de Luc Offrant une demi-heure, envoyez-le au premier. Ma fille a quelques besognes à lui faire faire. » »« Je m'étais bien promis d'être muet et vous voyez comme j'ai réussi, » dit Luc quand son patron eut disparu. « Je prends la mouche pour rien. Si vous n'aviez pas arrangé l'affaire, j'aurais eu mon sac. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie au premier à présent? J'aime bien mieux compter mes pierres. » Il se lava les mains, passa les doigts dans ses cheveux avec une fatuité naïve qui fit sourire son chef. « Est-ce que je peux aller en blouse ? » demanda-t-il. Au fond, il n'était pas fâché de monter chez le patron. « Comme il s'agit probablement de clouer une caisse, vous ferez mieux de réserver le frac pour une autre occasion, » dit M. Dalphon de son air gravement ironique. Luc rougit. « Avez-vous jamais été là-haut ? » demanda-t-il. « J'y soupe tous les samedis. » « Tous les samedis, ainsi vous connaissez Mademoiselle Moller ?»« Assez pour savoir qu'elle n'aime pas à attendre. »« J'y vais, » dit Luc précipitamment. Il monta l'escalier 4 à 4 et manqua trébucher sur les jardinières qui encombraient le palier du premier étage. Une fille de chambre était là, transportant dans le vestibule de hautes plantes vertes en pot. « C'est vous qu'on envoie d'en bas pour m'aider ?» demanda-t-elle en apercevant Luc. « Bon, vous ne chômerez pas. Tout est sans dessus-dessous. Nous avons une soirée dansante, ce que mademoiselle appelle un bal cendrillon. Vous direz que c'est un peu tard dans la saison pour danser, » continua-t-elle, en imitant si évidemment le ton de sa maîtresse que Luc ne put s'empêcher de sourire. « Mais que voulez-vous? Comme notre anniversaire, je veux dire, comme l'anniversaire de mademoiselle tombe en juin, il faut bien le célébrer maintenant. Prenez l'outrance de cette corbeille. » Luc obéit et entra à la suite de la fille de chambre dans le vestibule d'abord, puis dans le petit salon où Pauline Moller se trouvait seule, occupée à grouper en un élégant massif des fougères et des bégonias aux fleurs éclatantes. Elle répondit d'un air distrait au salut respectueux de Luc. Le jeune homme se tenait sur le seuil, étonné d'un luxe qu'il n'avait jamais entrevu, mais qui lui semblait maintenant la révélation d'un monde longtemps pressenti. Ses yeux, aisément épris de toutes les belles choses, suivaient les riches reflets des rideaux de velours bleu et des tapis aux lourdes franges. Il s'égarait sur les étagères couvertes de bibelots, sur les gais aquarelles encadrées de minces baguettes d'or, sur les coupes de porcelaine pleines de fleurs, puis il revenait se fixer sur la hautaine princesse de ce petit royaume charmant. La vision qu'il avait eue quelques jours auparavant se présenta de nouveau à son esprit. Il lui sembla qu'une belle main fine, une main faite pour être baisée, écartait devant lui un rideau et lui laissait apercevoir, pour une minute seulement, la lumière et les élégances d'un monde où sa rusticité ne serait jamais admise. Son extase était si naïve qu'il ne cherchait pas même à la cacher. Pauline Moller le regardait par-dessus son épaule et un demi-sourire retroussait les coins de sa bouche malicieuse. « Julie, » dit-elle en se tournant vers la fille de chambre, « il faut rouler le piano dans le grand salon. » Luc sortit de sa rêverie et s'approcha de la domestique pour lui prêter main-forte. Quand le magnifique instrument eut été transporté dans la pièce voisine, Pauline l'ouvrit, fit courir ses doigts agiles d'un bout à l'autre du clavier. « J'aurai besoin de l'accordeur, » dit-elle. La femme de chambre crut devoir servir d'interprète à sa maîtresse. Elle se tourna vers Luc d'un air officieux. « Mademoiselle a besoin de l'accordeur, » dit-elle. « Je vais vous donner son adresse et vous irez l'avertir. » Luc s'imagina que Mademoiselle Moller dédaignait de s'adresser à lui directement et sa susceptibilité toujours ombrageuse s'en offensa. « Je comprends votre français aussi bien que celui de la femme de chambre. » Si vous avez quelque ordre à me donner, veuillez me le donner vous-même, dit-il avec un geste presque impérieux. Pauline, surprise et offensée à son tour, le regarda froidement. « Je n'avais aucune intention de vous blesser, monsieur. Permettez-moi de vous dire que votre ton est tout au plus convenable. »« Julie, » poursuivit-elle, tandis que d'une main un peu agitée, elle éparpillait sur le guéridon de mosaïque florentine une poignée de violettes tombées de leur coupe de cristal. Julie descendait et priait M. Dalphon de m'envoyer un autre des apprentis, le moins impertinent si possible. Ainsi congédié, Luc revint lentement à l'entrepôt, un peu inquiet des suites de son incartade. Pauline Moller, restée seule, ne put s'empêcher de rire malgré son courroux. « Il a du caractère, ce jeune prince, murmura-t-elle. Il me plaît assez. » Dès leur première rencontre, la distinction native, l'ombrageuse fierté du nouvel employé de son père, l'avait frappée. Aucun des jeunes gens qu'elle rencontrait dans son monde à elle ne possédait ses manières, tantôt brusquement hautaines, tantôt apaisées et courtoises, qui formaient un singulier contraste avec l'humble position de Luc Offrand. Celui-ci, redescendu dans les régions inférieures où le courroux de Pauline venait de le bannir, ne put s'empêcher de raconter à M. Dalphon sa petite aventure. « Je vais bien, n'est-ce pas » dit-il en manière de conclusion. « En moins de 2 jours, je tiens tête aux visiteurs, au patron et à sa fille. Je finirai par me mettre à dos jusqu'aux chiens et aux chats de la maison. » Ou bien vous apprendrez la philosophie qui consiste à faire les poings dans ses poches et à se taire sans murmurer, comme dans la chanson. Répondit l'expéditionnaire avec un sourire. « Mais je devine pourtant qu'on vous accordera votre franc-parler plus facilement qu'à d'autres. » La belle figure ouverte de Luc, son regard ferme et brillant, l'aisance de son maintien avait certainement un charme captivant qui lui faisait pardonner les vivacités de sa parole. Le soir approchait. « Nous fermons ordinairement à 7 heures. » dit M. Dalphon en s'approchant de l'établi où Luc se tenait encore penché sur ses pierres. « Mais ce soir, j'ai à terminer une commission pressante et je n'irai pas souper avant 8 heures. »« Pourrais-je vous aider ?»« Non, vous n'entendez rien encore à la fourniture. D'ailleurs, vous devez avoir besoin de vous étirer un peu. La première journée est toujours pénible. »« C'est vrai, » dit Luc. J'ai des fourmillements tout le long de l'échine. Je me promènerai dans la rue en vous attendant. » Mais il avait compté sur la sémillante fille de chambre qui, dès la première minute de leur connaissance, avait ressenti pour Luc un vif intérêt. Comme il battait le pavé depuis longtemps et se demandait avec une certaine impatience si M. Dalphon n'allait pas bientôt paraître, il rencontra Julie, accablée sous le poids de 2 lourds paniers. « Soyez obligeant, dit-elle, et prenez-m'en un. C'est un supplément de vaisselle que la tante de madame nous prête pour le souper. Nous sommes pourtant bien fournis de tout, » continua-t-elle en redressant d'un air glorieux sa petite tête de linotte. « Mais un souper de 50 couverts, à 4 services, et quand la cuisinière ne veut rien laver pendant le repas, c'est embarrassant, même dans les meilleures familles. Voulez-vous voir la chambre à manger ?» poursuivit-elle quand ils atteignirent le palier du premier étage. « C'est moi qui ai arrangé la table et on dit que j'ai beaucoup de goût. »« Non, merci, » répondit Luc en déposant sa charge sur la dernière marche de l'escalier. « Et vous allez me planter ici avec mes 2 paniers ? Vous êtes poli. Apportez-les jusque dans la cuisine, s'il vous plaît. » Luc obéit d'assez mauvaise grâce. « Vous verrez au moins le grand salon, » fit la trop engageante soubrette en passant devant lui. « Le jardinier l'a décoré que c'est un vrai paradis. N'ayez donc pas peur, madame et mademoiselle sont encore à leur toilette. Tout est déjà allumé. Un bal cendrillon, vous savez, comme ça finit à minuit, ça ne peut pas commencer tard, autrement ça n'aurait que les 2 bouts. » En même temps, elle ouvrait l'un des battants d'une porte à grands panneaux, et Luc, involontairement, regarda. Les stores de soie blanche étaient baissés derrière les lourds rideaux, le lustre aux girandoles de cristal, les candélabres et les appliques en bronze doré étincelaient de 1000 lumières. Dans les angles de la vaste pièce et dans les embrasures profondes, des massifs de verdure s'élevaient comme des berceaux, formant de gentilles retraites où l'on serait bien pour chuchoter à deux derrière l'éventail. Une profusion de roses, gracieuses étrangères venues de Montreux ou de Cannes, remplissaient des corbeilles d'osier argenté et répandaient déjà leur parfum que la chaleur décuplerait bientôt. Devant la haute glace à biseau qui surmontait une console dorée, se tenait Pauline Moller, le dos tourné à la porte, agrafant ses bracelets. En moins d'une seconde, Luc vit bien des choses. Il vit qu'elle portait une robe d'un bleu léger, à longues traînes, que son cou et sa gorge étaient blancs comme neige sous les dentelles vaporeuses qui les voilaient à demi. Il vit une rosetée qui jouait à cache-cache sous les ondes de ses cheveux blonds et un bouquet d'autres roses coquettement épinglées au corsage de satin. Il vit aussi se refléter dans la glace la petite main qu'il admirait. Pauline ne tourna pas la tête, mais ses fins sourcils se levèrent un peu d'un air étonné, et Luc, honteux, humilié de son indiscrétion involontaire, s'enfuit. Tout le soir, il ragea mentalement contre sa mauvaise chance. « Mademoiselle Moller se dira que je suis bien de mon village, que 4 ou 5 bougies ont suffi à m'éblouir comme un pauvre niais de perdreau que je suis. » Me faire attraper en flagrant délit d'espionnage à sa porte, les yeux écarquillés d'admiration et la bouche ouverte comme un pierrot, c'est par trop ridicule, c'est par trop vexant, c'est exaspérant. » Et il frappa du pied dans l'excès de son dépit. « Qu'est-ce qui vous prend ?» demanda M. Dalphon en sortant à demi des profondeurs d'une armoire qu'il vidait pour la céder à Luc. « Ce qui me prend, c'est moi qui voudrais prendre quelque chose ou quelqu'un pour le chiffonner, le tortiller, l'émietter et finalement le lancer par la fenêtre. Ça me ferait du bien. » « Voici un vieux chapeau, » dit M. Dalphon en lui présentant un couvre-chef tout aplati. « Est-ce que ça pourrait suffire ?» Luc se mit à rire. « C'est très sérieux, mon affaire. C'est même tragique, comme vous allez voir. Il faut que je vous la raconte. » Ça m'étouffait pendant le souper, j'en avalais de travers. À moins que vous n'ayez assez de mes confidences. « Allez toujours, » répondit laconiquement son compagnon. En narrant sa nouvelle aventure, Luc s'échauffa. Le sentiment d'humiliation revint, plus cuisant encore qu'à la première minute. Mais en même temps, une blonde image se dressait devant lui, au milieu de la lumière et des roses. « Que pensera-t-elle de moi ?» s'écria-t-il plein de dépit. Et qu'importe ce qu'elle pense de vous, dit Dalphon calmement. Vous n'êtes rien pour elle, elle ne doit rien être pour vous. Mais l'orgueil froissé ne s'apaise pas si facilement. Luc dormit à peine cette nuit, la première qu'il eût passée loin du toit paternel. Et tandis que sa mère priait pour lui, tandis que Claire le voyait passer dans ses rêves, lui ne songeait qu'à la brillante Pauline.